quel est le signe que la pratique porte ses fruits? Le but est-il de se transformer?
Il s'agit plutôt de se détendre dans ce que nous sommes, que nous avons oublié. Je crois que vraiment le cœur des enseignements, en tout cas de ce que j'ai compris, de ces enseignements que moi j'ai reçus et qui viennent de la tradition du Bouddha, je crois que le point le plus important, c'est la sagesse la plus grande, l'amour le plus haut, est juste déjà là, mais nous l'avons oublié. Et l'image la plus traditionnelle, c'est un joyau qui est là et que nous ne savons pas reconnaître. Dans les textes bouddhiques, il y a des très belles images, par exemple un mendiant qui est très pauvre et malheureux, qui rencontre un de ses amis qui est un prince, et le prince coud dans la robe de son ami pendant qu'il dort un joyau. Le mendiant, le lendemain, se promène et est toujours pauvre et malheureux, et un an plus tard, il rencontre son ami sans s'être rendu compte qu'il avait un joyau qu'il portait et qui lui aurait donné tout ce qu'il a besoin. Ou une autre image tout à fait traditionnelle, c'est ce mendiant qui est comme nous, qui a l'impression de pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, que tout lui fait défaut. Et quelqu'un arrive et lui dit, mais tu ne te rends pas compte que tu vis dans une grotte et toutes les pierres de ta grotte sont en or. Prends un morceau, va au marché, tu pourras acheter tout ce que tu veux. Et il le fait et il découvre avec stupeur qu'il a une richesse qu'il n'avait pas vue. Et je crois que là, que ces pratiques visent à nous faire découvrir qu'il y a une richesse en nous que nous avons perdue. Il ne s'agit donc vraiment pas de nous transformer, mais il s'agit de nous détendre de manière très fondamentale dans cette richesse qui est juste là, mais que nous avons perdue. Et je crois que c'est toutes ces pratiques, d'une manière ou d'une autre, tentent de nous faire rentrer à la maison dans cette tendresse bienveillante et chaleureuse. Et nous avons tous eu un moment où nous avons senti cet amour. Il y a tous un moment où nous avons senti que nous étions aimés. Tous, il y a un moment où nous avons aimé quelqu'un de manière complètement pure et désintéressée. Vous savez, c'est ce que disait Platon. Nul n'est méchant de son plein gré. C'est vraiment une forme d'ignorance, d'aveuglement qui nous conduit au mal, à nous détourner de la source. Et si ces pratiques, pour moi, ont du sens, c'est qu'elles nous ramènent à la source. Je crois qu'il s'agit beaucoup plus d'un élément de détente profonde que l'idée de se transformer parce qu'il y a quelque chose qui est mauvais en nous et qu'il faut absolument qu'on devienne quelqu'un d'autre, qui me semble une idée, mais vraiment profondément égarante. Même si on pourrait entendre cette notion de transformation comme Rilke parle de la métamorphose, qu'on peut jamais être installé une fois pour toutes, et que nous avons à nous transformer au sens que nous avons à accepter le mouvement de la vie. Et qu'accepter le mouvement de la vie, c'est accepter d'être jamais fixé quelque part. Je crois que l'amour bienveillant nous apprend ça, qu'on peut toujours aimer davantage, se dépasser, se transformer, qu'on n'est jamais condamné à rien. Peut-être vous avez vécu des expériences difficiles, peut-être vous avez le sentiment que votre cœur est devenu froid comme une pierre, vous avez le sentiment que plus jamais vous devriez aimer, que c'est trop douloureux, que vous ne voulez plus accepter d'être aimé parce que c'est prendre un risque. Et je crois qu'on peut, là, dans cette perspective, se transformer, se métamorphoser. On n'est condamné à rien. Il y a toujours une possibilité d'une transformation, d'une transmutation, d'un développement, d'un dépassement.
J'aimerais terminer en rebondissant sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, que l'aspiration, en fait, peut quelque part colorer notre vie quotidienne. Si vous donniez l'exemple de je me réveille en colère, est-ce que ma journée va être colorée de colère? Ou est-ce que je peux justement, grâce à la bienveillance aimante, donner une autre couleur à cette journée? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire entrer la bienveillance dans notre vie quotidienne?
Ben, je crois que c'est déjà un point vraiment crucial. Vous n'êtes pas prisonnier de votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il n'y a aucune raison de lui donner trop de droits. Si vous êtes en colère, vous pouvez laisser tomber votre colère et faire naître de la bienveillance aimante. Je crois que c'est vraiment possible, réel et important. Nous prenons trop au sérieux nos états émotionnels. Je crois que ces pratiques nous montrent que les émotions ne sont pas aussi sérieuses que nous le croyons. Je crois que c'est vraiment décisif. Évidemment, Il y a plein de signes que la pratique porte ses fruits. Il y a le fait, je crois, de se sentir plus vivant, plus joyeux. Quand la bienveillance aimante est là, on est plus libre, on est plus joyeux, on est plus détendu. Vous savez, c'est les fameuses expériences qu'a fait Bowlby en étudiant des enfants nouveau-nés. Il s'est rendu compte que des enfants nouveau-nés auxquels on donnait tous les soins avaient quand même une mortalité infantile supérieure à des enfants qui n'avaient pas tous les soins, mais qui étaient vraiment aimés. Et c'était vraiment complètement une révolution à l'époque, parce que beaucoup de psychanalystes, de psychologues pensaient que l'enfant, au fond, ne sent rien, et son ego n'est pas encore formé, et donc il ne peut pas souffrir. Et on s'est rendu compte que c'était une profonde erreur, qu'il y a certes le lait, la nourriture et les soins, mais il y a aussi le miel de l'amour. Et que quelqu'un qui ne reçoit pas l'amour, il ne peut pas vivre. Je crois que c'est une image très forte. Si tous nos besoins sont comblés, mais pas celui de l'amour, de la bienveillance aimante, au fond, nous ne pouvons pas vraiment vivre. On peut faire à la rigueur semblant de vivre, mais on ne peut pas vraiment vivre. Je crois que c'est la grande leçon aussi de la plupart des grands écrivains. C'est la grande leçon de Kafka, par exemple, de Proust. Beaucoup de grands auteurs ont essayé de nous montrer cette impasse dans laquelle nous étions. Un autre signe très important de la pratique, c'est le faisant, on se rend compte qu'on est moins séparés. Une des grandes douleurs de notre monde, c'est qu'on a l'impression d'être isolé, d'être coupé des choses, coupé des êtres. Et dans la pratique, j'ai vraiment tenu à qu'il y ait une pratique où on s'ouvre aux choses et des pratiques où on s'ouvre aux êtres. Je crois que c'est important parce qu'il faut vraiment sortir de cette illusion que je suis un moi séparé des autres. Il y a un lien qui nous relie à l'ampleur du monde qui est très décisif. Nous sommes, comme dit Thich Nhat Hanh, dans une relation d'inter-être. Mais on peut le dire de différentes manières. Et encore une fois, les poètes nous aident beaucoup à entendre ce lien très profond. Et je crois qu'un des signes de la pratique, c'est que d'un seul coup, on se rend compte qu'on n'est pas si isolé que ça. Que les fleurs, les arbres, la souffrance nous touchent, nous concernent. Que nous sommes de plein pied avec ce qui est. Un autre signe, je crois, que la pratique entre en nous, c'est que nous nous en voulons un peu moins. Et que nous sommes un peu plus tendres avec nous-mêmes. Et notre monde a infiniment besoin de tendresse.
Fabrice Midal, merci beaucoup.